Bonjour, je suis en compagnie de Kantita Kiros et Alyosha Imov. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Nous parlons de votre nouveau livre qui s'appelle « Qui parle ?» entre parenthèses pour les non-humains. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de la généalogie de cette question « Qui parle ?»
Alors la généalogie de cette question qui parle n'est pas forcément la même que la généalogie du livre lui-même. Alors il y a plusieurs récits possibles à cette question, à l'origine historique de cette question, mais disons que un des points d'entrée qui est pour nous important et dans le récit qu'on en fait, c'est ce fameux d'où tu parles, hein, camarade, qui était harangué en 68 du fond de l'amphi vis-à-vis des intellectuels et notamment des pères fondateurs de l'université de Vincennes, comme Michel Foucault et d'autres. Et donc, ce d'où tu parles était censé, évidemment, demander à l'interlocuteur si cette parole est ancrée dans les luttes, si elle représente un centre de pouvoir, une institution particulière, etc. Au fond, comprendre, en fait, l'origine d'une parole, en fait, son ancrage institutionnel, etc. Et ce qui est assez intéressant, me semble-t-il, c'est que, enfin, nous semble-t-il, c'est que dès l'origine de ce moment-là, Michel Foucault lui-même, hein, donc était souvent interpellé par cette question, était très ambivalent vis-à-vis de cette question elle-même. Il la voyait souvent même comme une question policière, au fond, qui es-tu, au nom de qui seras-tu innocent ou coupable? Et donc voyez plutôt une question d'identité plutôt qu'une question finalement d'analyse institutionnelle, etc. Et c'est assez intéressant parce que Michel Foucault est quand même plutôt un des philosophes au XXe siècle qui est bien connu pour avoir montré l'importance du lieu de la parole, combien la parole d'un fou ou d'un prisonnier fait différer les discours officiels sur les prisons ou les asiles. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début de cette histoire-là, en tout cas dans ce récit qu'on compose de cette manière-là, c'est que on a une profonde ambivalence qui pourra se déplier de mille et une manières par la suite au cœur des épistémologies féministes, des études postcoloniales, en fait, et qu'on pourrait résumer ainsi, c'est-à-dire à savoir la nécessité, depuis les études que l'on dit souvent identifiées, ou les mouvements que l'on dit identitaires, en fait, c'est la nécessité de se situer et de se destituer au sein du même mouvement comme étant un geste à la fois complémentaire, mais surtout aussi contradictoire. Je laisse compléter.
Non, vas-y, vas-y.
Non, non, bah non. Pardon, et du coup, il y a Adèle qui me dit coucou.
Ah oui, pardon. Sur cette dimension-là, en fait, de la nécessité d'une institution dans la parole ou dans une situation dans la parole, c'est-à-dire finalement ne pas penser que le lieu de la parole est neutre, n'est pas inscrit depuis une position sociale, depuis une position en l'occurrence minoritaire, si on parle de l'héritage de Foucault et de toute cette disons, école de pensée. De Deleuze également, Deleuze et Guattari. Donc cette nécessité de mettre à jour finalement le locus énonciatif et en même temps peut-être dans le même mouvement, dans une sorte de mouvement comme ça, presque de ressac ou de d'estran, on pourrait dire énonciatif, finalement chercher aussi à ne jamais être dans des positions de stabilisation du lieu de la parole, ou en tout cas être toujours dans des positions aussi de destitution possible. C'est peut-être ça ce que tu...
Ah bah oui, non mais je n'ai pas de... Pardon.
Alors, cette question, elle prend nouvellement son sens avec l'Anthropocène, avec la catastrophe climatique et écologique. Et la pensée de mai 68, ces penseurs-là, eux, n'avaient pas cette obligation, n'avaient pas cela en vue, ce n'était pas prégnant pour eux, même s'ils ont pu évoquer la question écologique, mais en tout cas, elle n'était pas aussi présente d'une obligation aussi forte qu'actuellement. Et donc, qui parle, là, maintenant, avec l'Anthropocène et la catastrophe climatique et écologique, c'est autre chose que cette idée qu'a pu avoir, par exemple, Foucault et cette pensée 68 qui pouvait dire qui parle, camarade, quoi. Là, on n'est plus dans ce registre-là.
bien commencé, mais on peut. Ouais. Oui, le projet du livre, effectivement, est de tenter de faire se rejoindre, d'une certaine manière, deux versants d'une même montagne, quoi. C'est-à-dire que depuis l'événement anthropocène, on a un certain nombre d'appels dans le champ de la pensée contemporaine, et ça va même souvent bien au-delà des sciences humaines, en fait, qu'on retrouve aussi chez les éthologues, chez beaucoup de biologistes, enfin, etc. Enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui en appellent d'une certaine manière, parmi une façon, à ouvrir la scène énonciative, en fait, à entendre, en fait, hein, littéralement ceux qui ne parlent pas, ou comme le dit ce poète que l'on cite à de nombreuses reprises, Jean-Christophe Bailly, ceux qui conjuguent les verbes en silence. De l'autre côté, il y a cet héritage-ci, en fait, dont on parlait, hein, qu'on remémorait à l'instant, en fait, à savoir la façon dont les questions énonciatives pouvaient se déplier, s'interroger depuis les années 60 et évidemment bien au-delà encore, et qui, d'une certaine manière, ne rencontrait, enfin, que marginalement, disons, cette histoire d'une scène énonciative et qui serait cette fois-ci élargie au non-humain. On a parmi les exemples un peu symptomatiques, mais bon, je vais citer un auteur avec lequel on discute et en même temps qu'on peut admirer par certains de ses ouvrages, mais qui pose aussi des questions sur d'autres avec lesquelles on est moins en accord. Je pense à Tristan Garcia avec son livre, par exemple, qui s'appelait Nous. C'est un livre qui était publié en 2016 aux éditions Grasset. Et il est intéressant parce que justement, il essayait de par ce biais de ce pronominal, hein, cette question du nous, il tentait en fait d'interroger en fait la constitution des nous, alors qui serait pour lui le sujet du politique, hein, c'est même la première phrase du livre, hein, partons, admettons que le sujet de la politique c'est nous. Eh bien, d'un côté, un élargissement sans bord, désormais sans bord, en fait, des nous possibles de la politique, et le nous antispéciste, par exemple, hein, donc le nous élargi au monde vivant, et peut-être même au-delà, jusqu'au cosmos, etc. Donc, en tout cas, un nous qui serait en rupture vraiment forte avec l'héritage humaniste, hein, pour reprendre ces termes. Et de l'autre côté, un nous qu'il voyait comme étant de plus en plus fragmentaire, replié sur lui-même, avec des nous toujours plus particuliers, hein, et c'est souvent un peu ce qu'on dit, même dans le champ un peu médiatique, ce qu'on peut entendre ici ou là, que finalement, voilà, les mouvements dits identitaires nous enjoindraient à se replier sur eux-mêmes, etc. Donc c'est ce qui nous annonce dès la page 16 de ce livre. Donc je dis, parce que c'est encore une fois, voilà, c'est deux versants d'une même montagne, cette question énonciative avec et les humains d'une part, et puis ensuite élargie au non-humain. Mais finalement, très souvent, lorsqu'il s'agissait de l'élargir au non-humain, en fait, on ne prenait pas acte de la complexité, en fait, de cette scène énonciative telle qu'elle pouvait se jouer, se déplier en amont, disons, de l'événement anthropocène, quand bien même, évidemment, nous y étions déjà, etc. Et donc, dans ce livre, oui, je disais, donc page 16 à peine, lorsqu'il prend l'exemple de Monique Wittig. Hein, Monique Wittig est une autrice qui a été importante aussi dans notre parcours, une autrice féministe de la seconde vague, hein, matérialiste, et autrice à la fois écrivaine et essayiste, autrice de La pensée straight, qui est son livre sans doute le plus important, ou en tout cas le plus connu pour les études ensuite qui s'en sont suivies de la troisième vague du féminisme. Et bien, du coup, Tristan Garcia, il voit en fait une division, hein, du sujet femme. Il y voit plutôt, d'un côté, avec la naissance de sa terminologie, enfin, l'émergence du sujet lesbien, quoi, disons, dans son ouvrage, hein. Tristan Garcia, il voit en fait une division du sujet femme, de manière plus particulière, etc. Alors que pourtant, enfin, la phrase la plus connue de Wittig, hein, c'est quand même les lesbiennes ne sont pas des femmes. En fait, si on l'entend de manière assez littérale aussi, alors dans le cheminement de sa pensée, c'est évidemment elles ne sont pas des femmes parce qu'elles ne remplissent pas le rôle attribué par la société patriarcale, hétérosexuelle, etc. Donc c'est dans ce sens-là. Mais c'est aussi un énoncé contradictoire, quoi. Il faut pouvoir aussi l'entendre. C'est-à-dire que c'est un déplacement, non pas seulement des questions identitaires, mais c'est un déplacement du sujet du féminisme qui le rend à un endroit qui est peut-être plus corrosif, d'une part, ce qui sera repris d'ailleurs plus tard par Judith Butler lorsqu'elle en appelle un féminisme de la subversion, hein, dans son livre majeur Trouble dans le genre. Mais plus encore, en fait, comme une manière, en fait, de témoigner, en fait, par cette phrase seule, en fait, ce que c'est que d'être piégé par le langage. Et c'est pas un hasard si Monique Wittig est à la fois essayiste et écrivaine. C'est-à-dire que du coup, il y a des stratégies langagières qu'on va retrouver ensuite par la suite dans ses écrits aussi, des tentatives de marronnage à l'intérieur de la langue, hein, des stratégies de bruitification du langage telles qu'elle pouvait le dire elle-même, de manière à sortir, à s'échapper, ce marronnage donc, des classes de sexe. Et donc c'est toujours une manière en fait, comme on le disait tout à l'heure, de se situer et de se destituer au sein du même mouvement de manière contradictoire, quoi, comme étant par ces stratégies-là en fait une manière en fait de se rendre d'une certaine manière illocalisable hein, sur la carte de la règle majeure, un code d'une certaine manière qui ne serait que lisible par le sujet minoritaire hein, tel que ça a pu être déployé par un auteur ensuite au sein des mouvements queer, hein, qui est José Esteban Muñoz. Voilà, donc du coup, en fait, on avait toute une série de stratégies comme ça. Chez Butler, c'était comment user de la stratégie femme tout en la subvertissant l'intérieur. On avait Gayatri Spivak qui nous disait qu'il fallait construire des essentialismes stratégiques. Hein, donc, c'est pas des essences, mais c'est toujours des essences stratégiques hein, qui se posent comme essences, mais à un moment donné, mais de manière presque voilà, uniquement tactique à l'intérieur d'un échiquier ou d'un agenda politique précis. Et puis voilà, toute une série en fait de stratégie énonciative. Et en fait, dès qu'il s'agissait d'ouvrir cette scène énonciative au non-humain, on ne prenait le plus souvent pas acte en fait de toutes ces stratégies qui avaient pu se déplier donc en amont de l'événement anthropocène, comme si finalement ça allait de soi, en fait, qu'il suffisait finalement de tendre un micro à ceux qui pourtant ne parlent pas pour d'eux-mêmes, à commencer par les animaux, mais aussi ceux qui sont même dépourvus de larynx, de langue, etc., comme les plantes, etc. Donc, alors que, en fait, ça renvoyait peut-être à un niveau encore plus profond, en fait, ces paradoxes et ces stratégies dont on parlait à l'instant. Donc, c'était évidemment tout l'enjeu de ce livre, en fait. C'était à la fois de se faire héritier des épistémologies féministes, queer, postcoloniales, en fait, de ces stratégies assez complexes, voilà, au cœur des mouvements identitaires et au-delà. Et en même temps, de chercher à discuter ce qui se joue aujourd'hui, depuis ces multiples appels à élargir la scène énonciative au non-humain.
Alors, j'aimerais qu'on se focalise sur cette, entre parenthèses, ce sous-titre. Le titre principal étant qui parle, mais entre parenthèses, il y a marqué pour les non-humains. C'est non pas qui parle les non-humains, mais c'est pour les non-humains. Et ça, j'aimerais vous interroger là-dessus, parce que cette entre-parenthèse, on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé du coup des non-humains, mais néanmoins, c'est pour les non-humains, mais entre-parenthèse. J'aimerais que vous parliez de cette nuance, de cette possibilité que ce soit pour.
Alors peut-être qu'on revient encore une fois à cette fameuse phrase que Deleuze disait à propos de Foucault, vous êtes celui qui nous a enseigner l'indignité qu'il y a à parler à la place des autres. Et du coup, cette adresse, ce pour qui a une double, disons, qu'on peut entendre de manière aussi ambivalente, c'est-à-dire qui parle à la place d'eux, enfin, et puis qui parle au nom, en s'adressant aussi. Donc, c'est exactement cette ambivalence qu'on essaie de maintenir. Et une des dimensions du livre qui est celle de revenir beaucoup sur des enjeux traductifs, notamment à partir de disons que cette impossibilité de la tâche du traducteur ou cette impossibilité, cette difficulté de la tâche traductive. On a beaucoup parlé de cette question de la traduction. Notamment voilà quand on parle en poésie on dit que personne d'autre qu'un traducteur personne d'autre qu'un poète ne peut traduire un poète finalement se rejoue ce même type d'ambivalence qui est redoublé puisqu'on est là face à des entités, que ce soit la forêt, les rivières, la terre peut-être, qui se situent plutôt du côté d'une sémiose plutôt que d'un langage qui serait logocentrique, etc. Et donc, du coup, cette même tâche traductive, elle est finalement redoublée, enfin, cette difficulté. Et c'est un peu tout l'enjeu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est au cœur du livre, ce sont des pratiques d'artistes, essentiellement. Donc, on revient sur un certain nombre de figures, de dispositifs artistiques qui ont lieu dans le champ, notamment de l'art aujourd'hui. Alors on revient beaucoup sur la figure de l'assemblée, par exemple, ou du procès, tel que en fait les artistes se saisissent de ces dispositifs modernes, disons l'assemblée, la constitution, le procès, qui sont des dispositifs issus de la modernité par excellence, mais ils essaient en quelque sorte finalement de l'ouvrir à des formes non naturalistes, on va dire. Et se rejoue à cet endroit-là la difficulté traductive, au sens où finalement la question du porte-parole ou de la dignité du porte-parole, la dignité du représentant est mise en défaut à cet endroit-là. Mais en même temps, il choisit, c'est ça ce qui nous a, voilà, qui est une des trames très fortes du livre, non pas d'abandonner totalement la possibilité de représenter ou de traduire, mais de mener cette tâche, disons, en dépit même de sa difficulté, quoi. Voilà.
Alors, on en vient à ce qui est le cœur de votre livre que vous venez d'évoquer, Cantuta, c'est justement l'art, c'est votre champ, votre champ disciplinaire, et c'est à partir de cela que vous avez établi votre livre. Et ça, on comprend que tout ce dont on a parlé en introduction, c'est une préoccupation de nombreux artistes actuellement. C'est même au cœur, sans doute, des pratiques artistiques les plus innovantes. Et alors, quand on lit votre livre, on pense particulièrement à l'école des arts politiques de Bruno Latour. Bruno Latour est le penseur qui traverse complètement votre livre. Il est décédé ce week-end. Si nous pouvions un peu en parler à travers votre livre, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui traverse votre livre et le fondateur de l'école des arts politiques de Sciences Po.
Oui, effectivement, on a appris cette tragique nouvelle seulement hier, en fait. Oui, c'est une perte immense. Et Bruno Latour, effectivement, est quelqu'un qui a énormément compté pour nous et compté pour les artistes de manière générale, pour la scène de l'art contemporaine. Peut-être moins d'ailleurs pour son travail au cœur, disons, de l'espace de l'art, donc à savoir les expositions qu'il a pu faire. Hein, depuis, il a fait, si j'ai pas de bêtises, 4 ou 5 très grandes expositions. Les dernières en date, c'était Critical Zone à OZKM, mais il y avait historiquement Iconoclash, Making Things Public, et puis la Biennale de Taipei, qui a eu une itération française au Centre Pompidou Metz l'année dernière, qui s'appelait Toi et moi, nous ne vivons pas sur la même planète. Donc effectivement, c'est il y a évidemment beaucoup de choses à dire à cet égard. Spip a joué un rôle considérable comme manière de mettre au travail ensemble les artistes et les chercheurs de différentes disciplines, comme manière aussi peut-être de mettre en fait son bagage artistique ou ses manières de faire artistique, c'est le faire même peut-être artistique, un peu à côté en fait, et de donner lieu davantage à un espace réflexif, disons commun, à ces différentes disciplines-là. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, peut-être de manière plus personnelle encore, ce qui a beaucoup compté pour nous dans notre trajectoire de curateur, de commissaire d'exposition, car c'est vraiment au départ notre cœur de métier, c'est la manière dont Bruno Latour, à un moment donné, nous a beaucoup aidé à penser l'espace de l'art comme étant l'espace de diplomatie entre les savoirs, entre des savoirs totalement disjoints, ou donc peut-être moins en appeler en fait à des formes d'interdisciplinarité, voire à des formes de post-disciplinarité, mais comment penser un espace particulier qui serait l'espace de l'art, qui est quand même un peu une discipline sans discipline ou une discipline orpheline d'une certaine manière, c'est du coup d'envisager l'espace de l'art en fait comme étant l'espace qui permet en fait cette diplomatie. La diplomatie est un terme qui a été beaucoup travaillé par Latour dans beaucoup de ses écrits. Donc comment penser l'espace de l'art comme étant un espace de diplomatie véritablement entre des champs de savoir, mais aussi comme manière en fait de trouver l'espace commun entre des pratiques littéraires, des formes poétiques et peut-être même des savoirs vernaculaires, des savoirs indigènes, etc. avec des savoirs dits savants, etc. de l'autre en fait. Et comment en fait c'est cette mise en espace, cette composition là en fait est un projet en fait tout bonnement curatorial. Donc ça nous a beaucoup intéressé à une époque où on faisait des propositions dans le champ des expositions, quoi, en tant que commissaire d'exposition. Et puis bien sûr, Latour a été très, très important en tant que théoricien de Gaïa, théoricien de Lovelock, théoricien de l'Anthropocène, en fait, ces dernières années, en identifiant combien l'Anthropocène n'est pas seulement une question géologique, d'une part, c'est pas seulement même une question épistémologique qui viendrait désigner la manière dont le savoir se produit, ou comme manière de disputer qui est responsable en fait de la situation dans laquelle nous sommes, à savoir si ce sont les modernes, les naturalistes, l'héritage colonial, le capitalisme, etc., 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 mais comme une rupture cosmologique, hein. Combien en fait ce que nous sommes en train de vivre et de commencer seulement à prendre conscience en fait, c'est combien nous vivons une époque similaire en fait, et peut-être même plus profondément bouleversée que l'époque de Galilée en fait, hein, ce moment où on est passé d'un modèle héliocentrique, enfin où la Terre était au centre de l'univers, un modèle où c'était le Soleil qui devenait le centre de l'univers. D'ailleurs, sa collaboratrice très proche avec qui il a fait beaucoup de pièces de théâtre, qui est Frédéric Aitouati, avait écrit ce livre, hein, qui montrait combien à l'époque de Galilée, en plein tournant cosmologique, au moment où on n'avait pas encore les outils optiques, hein, pour vérifier les dires de Galilée, qui évidemment par la suite a eu raison, et bien du coup il s'agissait d'imaginer. Et donc c'est le travail pour le coup de production imaginative très puissant en fait de l'époque en fait pour changer en fait de cosmologie. Et donc c'est à cet égard, hein, alors voilà, que beaucoup d'artistes, hein, se saisissent aujourd'hui de ces questions, et que ça concerne en fait absolument tout le monde, à la fois les scientifiques, les artistes, les citoyens en fait, et qu'il y a tout le monde à réinventer d'une certaine manière, et que c'est pas qu'une affaire d'experts ou autre, c'est qu'il y a, et donc toute notre manière de penser la politique est également à repenser, dans le droit fil aussi de son travail, de ce qu'il a appelé, voilà, vis-à-vis de ce qu'il a appelé les politiques de la nature à la fin des années 90. Voilà, donc il y a beaucoup de concepts, de notions en fait qui sont très largement discutés par les artistes contemporains aujourd'hui et qui nous viennent de sa pensée. Voilà, et puis de manière plus générale, il y a plus bon, il y a aussi, ouais, le rapport aux objets, hein, c'est-à-dire, il y a la question du monde vivant, hein, comme étant réévalué par les artistes contemporains aujourd'hui dans le sillage de Latour, mais évidemment pas seulement, évidemment de plein d'autres penseurs aujourd'hui. Mais le rapport aux objets, peut-être, qui touchait à cet endroit-là quelque chose de très de très profond pour beaucoup d'artistes en devenir ou en formation, hein, qui réfléchissaient beaucoup à la question du travail de la matière ou à la manière de composer à partir d'objets préexistants. Et Latour, là encore, en mettant, en déhiérarchisant de manière très radicale, hein, la relation entre nous et les objets, et même entre les objets entre eux, pouvait peut-être toucher quelque chose de très profond dans ce que peut être aujourd'hui le travail des artistes. Et enfin, vis-à-vis aussi des disciplines de production de savoir, hein, héritées de la modernité, le grand projet de Latour, c'est évidemment cette anthropologie des modernes, hein, que ce soit, voilà, c'est ce qu'il a appelé après, enfin, la manière dont il a pu les déplier en différents modes d'existence. Donc à la fois comme manière en fait de ne pas en fait reproduire en fait certains gestes anti-institutionnels ou contre-institutionnels des années 70, mais sans, donc sans légitimer d'un côté les institutions ou les disciplines pour ce qu'elles sont, mais en refaisant, en reformant en fait constamment le cercle par lequel elles étaient, elles naissaient, elles se reproduisaient sans cesse. Et donc là aussi, on touchait quelque chose peut-être pour le monde de l'art et qui demandait à sans cesse trouver les gestes qui seront identifiés comme de l'art, donc à s'inscrire depuis une discipline quand même quelque part, mais sans légitimer l'institution par laquelle ces gestes émergent. Et donc là, il y avait des outils, des techniques en fait que la Tour avait pu apporter et qu'on peut être très utile, me semble-t-il, pour beaucoup d'artistes contemporains. Mais ça manque d'exemples.
Voilà. Alors on va en donner justement des exemples, vous allez en donner, parce que se pose cette question, en tout cas je me la suis posée, c'est que peuvent les artistes, que peuvent-ils apporter, que peuvent-ils faire, que peuvent-ils envisager avec cette question de qui parle, avec cette question du non-humain, et qui soit différent des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines. C'est-à-dire que j'ai vaguement l'impression que les chercheurs et les chercheuses en sciences humaines, autour de Bruno Latour notamment, entre autres, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, ont inscrit à l'ordre du jour de la pensée depuis une vingtaine d'années justement cette question de qui parle, justement cette question du non-humain à l'heure de l'anthropocène et de la catastrophe climatique et écologique. Et j'ai l'impression, mais sans doute que vous allez me contredire, et ce sera tant mieux, ce sera donc notre discussion, que les artistes actuels viennent après cet apport théorique, cet apport de pensée qui provient des sciences humaines. Et là, vous allez pouvoir donner des exemples pour contredire cette intuition qui, à mon avis, ne tient pas tout à fait la route. Mais néanmoins, c'est quelque chose que j'ai aussi perçu à travers votre livre, puisqu'on a à la fois beaucoup d'exemples d'artistes actuels, mais on a aussi tout un appui solide sur les sciences humaines.
C'est une très belle question. Déjà, je pense qu'on ne peut pas partir d'une séparation si forte entre chercheurs et artistes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une circulation très forte qui défait cette séparation ou cette autonomie. Un certain nombre d'artistes aujourd'hui se situent du côté de la figure de l'artiste en chercheur. Donc je pense que c'est difficile de les extraire du champ de la pensée ou en tout cas de penser qu'ils viennent après. On va dire qu'ils se situent dans un renouvellement aussi eux-mêmes, les artistes, des protocoles d'écriture. Ils sont des expérimentateurs de premier ordre quant à justement un certain nombre de méthodologies d'écriture qui souvent inspirent les chercheurs ou les disciplines telles que l'histoire, l'anthropologie. On voit bien à quel point leur faculté d'écrire depuis eux-mêmes, depuis des positions qui sont subjectives, sont déjà une sorte d'avant-garde en fait du renouvellement des sciences sociales en elles-mêmes. Mais peut-être plus que ça encore, si on s'attache à un certain nombre de pratiques qu'on développe autour desquelles on tourne dans le livre, qui sont ce qu'on appelle les pratiques assembléistes, qui sont un des axes qui est assez central et qui, on pourrait dire que c'est presque un courant ou un paradigme assez important aujourd'hui dans les pratiques de l'art aujourd'hui, qui se situe entre la performance, le théâtre et l'art, sans vraiment qu'il y ait d'assignation si précise. Je pense notamment, par exemple, au travail d'un artiste comme Jonas Stahl, qui est un artiste néerlandais, qui cherche à construire à la fois des institutions entre les institutions démocratiques, donc des sortes de démocratie interstitielle. Il a mené tout un projet d'ambassade ou de parlement pour des organisations qui sont mises au ban des sociétés démocratiques. Donc ça, c'est un projet d'ampleur depuis plusieurs années. Puis depuis quelques temps, il développe tout un projet autour d'une sorte de société ou de parlement pour interespèces, mais aussi interplanétaires. Donc serait une sorte de manière de défaire les volontés de terraformation qu'on connaît actuellement. Voilà, je vais pas forcément donner les noms de Elon Musk, mais c'est voilà une sorte de projet comme ça très utopique de coopération, d'hospitalité interplanétaire. Il me semble que l'usage qu'il fait des fictions, mais on pourrait mentionner le travail de Frédéric Aitouati aussi, ou d'artistes comme ça qui nous importent beaucoup aujourd'hui et qu'on pourrait rassembler sous le vocable d'assembléiste. Alors, plus encore que les chercheurs, il me semble qu'il y a un travail comme ça de mise à l'épreuve, ou en tout cas de ouverture des possibles par la potentialité, enfin par un jeu sur les niveaux de fiction. Et en même temps leur actualisation potentielle ou leur activation voilà, me font plaider beaucoup pour leur travail. Et en l'occurrence, si on s'intéresse au travail de Jonas Tal, peut-être qu'il y a là, dans ce travail en particulier, qui met en scène ou cherche à faire se constituer ou à se rendre des agents constitutifs des ammonites, des végétaux, un certain nombre comme ça d'entités qui pourraient se constituer en parlementaires. Il y a quelque chose dans ce type d'assemblée qui est particulièrement puissante dans la mesure où si on se réfère à ce qui s'est passé dans le champ de la politique réelle, des tentatives de bioconstitution qui existent déjà, hein, si on parle par exemple du cas de l'Équateur ou de la Bolivie, il y a des processus constituants qui cherchent à donner des droits juridiques à la nature, qui l'ont fait, notamment via la figure de la terre-mère, par exemple, en Bolivie et en Équateur. Ce qui me semble très singulier dans le cas de Jonas Tal, par exemple, c'est que ce sont des figures d'assemblée qui sont finalement des affiliés, ou on pourrait dire non fusionnels, qui ne se correspondent pas tout à fait à elles-mêmes. Donc il y a une figure comme ça de sujet constituant ou de sujet politique qui inclut le vivant, qui inclut les non-humains, mais avec une sorte de petit décalage ou de paradoxe dans la manière dont on s'énonce et on se constitue, qui ne sont pas des communautés qui sont exactement égales à elles-mêmes. Donc c'est là, pour moi, la grande force de l'art, en fait, d'une certaine manière, c'est d'imaginer des formes d'énonciation totalement paradoxales et en même temps, voilà, des formes de désidentification qui complexifient, en fait, la manière dont on se constitue.
Et ces artistes-là essaieraient de se placer aussi hors institution pour ne pas, dans cette question qu'ils parlent, qu'ils ne parlent pas qu'à eux-mêmes, qu'à leur communauté, qu'à leurs institutions, mais qu'ils essayent de parler davantage à plus quand on pense à, on va dire, à tenter de représenter le non-humain et à tenter d'en faire parlement. On cherche à s'adresser au plus grand nombre. Or, le problème que peut rencontrer l'artiste, c'est celui de l'institution qui va le représenter, et que bien souvent, on peut considérer des fois qu'il parle davantage à son institution plutôt que au non-humain en général.
Si je reviens en fait à ce qu'on défend dans le livre, peut-être que les artistes avec lesquels on fraye le plus et avec lesquels on a un compagnonnage sont dans des postures de disjonction très fortes avec l'existant. En tout cas, sont dans des postures de resignification et je pense quand même sont reliés à un mouvement, à des mouvements politiques. Enfin, je pense là, si je reviens à l'exemple de Jonas Tal, on n'est pas dans une autonomie en fait de ces projets et ils sont portés par une force qui resignifie l'institution. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même une force sociale qui qui accompagne en fait les tentatives constitutives, soit en effet il les déclenche, hein, c'est ce qui est assez fascinant dans ce type de projet, puisque il y a aussi la tentative de construire des mouvements sociaux, c'est ce que fait aussi en quelque sorte, d'une certaine manière, le Parlement de Loire, c'est aussi la tentative de construire un mouvement social. Alors on peut toujours se poser la question de dans quelle mesure les artistes peuvent déclencher ce type de mouvement, mais cette force les déborde peut-être, ou finalement eux-mêmes sont allés à l'initiative de ces mouvements, de ces mouvements politiques, de ces partis politiques, de ces syndicats transnationaux, écologistes, etc. Mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre, quoi. On ne peut pas séparer ces tentatives d'un mouvement de resignification qui vient aussi de l'espace réel.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot, Alyosha ? Non, mais la question est bien entendu outrancière, mais il faut bien que je l'adresse à des spécialistes ouverts sur la question. Et votre livre, il me semble, est justement aussi à la fois un élément de réponse, et vous avez bien raison, beaucoup d'artistes que vous citez résolvent par leur recherche, par ce qu'ils font, par leur pratique, cette question. Et en même temps, c'est une question qui, je pense, est toujours à l'ordre du jour et qu'elle n'est toujours pas résolue. Et je cherche des personnes qui peuvent, non pas la résoudre, mais la traiter en tout cas.
Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Non, mais bon, enfin, disons que parmi les derniers espaces qui nous restent d'expérimenter, où on peut loger des expérimentations... les marges de l'université peuvent être un lieu, même si elles manquent cruellement de recherche-action, en fait, d'endroits depuis lesquels se déplier à l'échelle 1 pour 1, d'une certaine manière. L'espace de l'art constitue aussi un espace possible, malgré, en dépit, souvent, comme vous le dites, de ces institutions, mais il y a aussi des institutions et des typologies d'institutions très, très diverses. Le Parlement de Loire, hein, si je dis pas de bêtises, a été soutenu par Polo, qui a été lui-même très financé par la région Bourgogne, je crois, Touraine, par la région de Tours. Il s'agit pas d'être dans une sorte ni de recherche d'espace pur, en fait, qui serait vraiment en dehors de toutes les contingences éventuelles, et puis l'espace militant reste évidemment un espace important. Pas d'esprit chagrin. Enfin, je veux dire, chaque espace peut se compléter. Il peut y avoir des choses à prendre, et qui nous font réfléchir et avancer ici ou là. Bien sûr, la théorie est évidemment déjà une mise en pratique d'une certaine manière, au moins à l'échelle de notre imagination individuelle et collective. Et puis ensuite, on tente des choses à l'échelle 1 pour 1 qui sont plus ou moins efficientes, qui marchent plus ou moins, qui ratent plus ou moins. L'important, c'est de continuer à chercher. Et puis après, il y a des mouvements politiques réels qui s'inscrivent depuis aussi ces mouvements de pensée et ces expérimentations collectives, et qui font naître à une autre échelle les choses. Et puis parfois, des moments d'ébullition politique, des révolutions. Et évidemment, quand on parle des constituantes, ça participe de moments qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires. Enfin, on ne sait pas exactement. De toute façon, par définition, une révolution, on peut ni l'anticiper, ni en décider le moment, ni véritablement savoir à quoi cela ressemblerait, dans quelle mesure, parce que parfois, comme on est en France, on pense qu'une révolution, c'est quand même toujours forcément le lieu d'une certaine violence, en tout cas on ne sait pas très bien, mais en tout cas il y a une situation politique qui nous demande en fait de changer beaucoup de choses. Mais bon, quand on prend l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, où est-ce qu'on la met dans cette typologie-là, entre le monde militant, le monde de l'art, le monde des sciences humaines, la théorie, etc. Bien sûr, enfin, ça a été plus ou moins commandité par Macron lui-même. En même temps, ils n'en ont rien fait du tout. Bon, donc du coup, il y a une forme d'expérience de pensée très forte à l'échelle d'un micro-parlement. On appelle ça des mini-publics, hein, dans le jargon voilà, des expérimentations politiques qui peuvent se dessiner. Voilà, et en même temps, rien n'en est fait. Donc bon, finalement, c'est l'équivalent d'une pièce de théâtre ou dans lequel les participants seraient amenés à rester pas seulement pendant 2 heures, mais pendant un temps de résidence important, comme ça peut parfois, en fait, finalement, se faire. Donc il était censé y avoir une écoute particulière, hein, mais qui n'a pas eu lieu. Donc bon, voilà, après, tout est bon à prendre pour le moment, et on verra ensuite comment tout ça peut s'agencer, se correspondre à un moment donné où la situation politique sera plus ouverte, hein, parce que pour l'instant, il y a quand même plus de choses qui se referment ces dernières années que de choses qui s'ouvrent. Donc il y aura évidemment des choses qui finiront par s'ouvrir, non?
Merci beaucoup, Alyosha Imhoff. Merci beaucoup, Quintet Akiros. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous. Merci.